rappel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Marie Casadebey.
Bonjour à tous, c'est à vous de prendre la parole maintenant sur RFI, appel sur l'actualité. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h temps universel. Dans un instant, vos questions, nos journalistes et nos experts pour y répondre. Et puis juste après le prochain journal, ce sera la libre antenne comme chaque vendredi. Vous nous avez appelé au 33 9 693 693 70 pour nous proposer vos sujets de débat, mais aussi par mail à appel avec un s.actu@rfi.fr et les réseaux sociaux. Vous avez ainsi choisi, entre autres, de vous exprimer sur la présidentielle au Gabon, le boycott par une partie de l'opposition de RDC de la préparation du dialogue avec la majorité, ou encore du procès de militants anti-esclavagistes en Mauritanie. Autre sujet qui vous intéresse, le procès d'un djihadiste malien devant la CPI. C'était en début de semaine et c'est Aïdara qui va nous poser des questions sur ce procès. Bonjour Aïdara.
Bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Vous nous appelez de Bamako. On écoute vos questions donc sur le procès d'un djihadiste malien accusé de destruction de mausolées.
Ok. Le djihadiste malien qui a ordonné la destruction des mausolées à Tombouctou est jugé en ce moment par la CPI.
Aïdara, vous êtes toujours en ligne?
Oui, les réseaux. Pourquoi est-il jugé par la CPI et non Bamako? Est-ce que cela peut ouvrir la voie à d'autres procès de ce type?
Le procès d'Ahmad Al-Faqi, qui est maintenant terminé après 3 jours d'audience, on ne connaîtra sa peine que le 27 septembre. On en parle avec Alice Banens, qui est chargée de programme au bureau Afrique de la FIDH. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors comment ça se fait effectivement que ce djihadiste soit jugé par la Cour pénale internationale et pas la justice malienne? Cette semaine, dans Appel sur l'actualité, on a lancé le débat justement sur les enjeux de ce procès et beaucoup de Maliens se posaient cette question.
Alors pour répondre à votre question, il faut savoir que la Cour pénale internationale est une cour qui a compétence pour les crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. En revanche, elle n'exerce sa compétence, c'est-à-dire elle ouvre des enquêtes ou engage des poursuites contre les auteurs de tels crimes, que lorsque les États n'ont pas la volonté ou la capacité de mener véritablement à bien ces enquêtes ou ces poursuites. C'est ce que l'on appelle le principe de complémentarité qui est établi par l'article 17 du statut de Rome, le texte établissant la Cour pénale internationale et que le Mali a ratifié. Alors la crise au Mali, comme nous le savons, a débuté en janvier 2012 et dès le mois de juillet de la même année, le Mali a renvoyé la situation à la Cour pénale internationale car le gouvernement a jugé qu'il n'était pas en l'état en mesure de lui-même enquêter et poursuivre les crimes qui étaient commis au nord du pays. Il en a fait prévu. Oui, pardon.
Non, on a entendu, juste pour revenir à ce procès, on comprend bien donc que la justice malienne n'avait pas les moyens d'enquêter hein, sur les destructions de mausolées notamment.
Voilà, le système judiciaire malien fait face à de grandes difficultés, notamment en raison de l'insécurité qui règne encore sur le nord du territoire et de son manque de moyens face à des crimes d'une telle nature et d'une telle ampleur. Et ainsi, le gouvernement malien a demandé directement à la Cour s'il était possible que la procureure de la Cour pénale internationale ouvre une enquête, et ce qu'elle a accepté et a confirmé en janvier 2013. L'enquête a été ouverte par son bureau, et c'est dans le cadre de cette enquête qu'un certain nombre de preuves a été recueillies concernant la destruction des mausolées de Tombouctou, dont M. Al-Mahdi a été un des principaux auteurs. Et la Cour pénale internationale a délivré un mandat d'arrêt à son encontre et M. Al-Mahdi a été transféré depuis sa prison au Niger jusqu'à La Haye il y a un an.
Alors beaucoup d'auditeurs se sont interrogés lors de ce débat, mais aussi à travers des reportages qu'on a pu diffuser pendant les 3 jours d'audience donc devant la CPI. Pourquoi Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi a été poursuivi et pas d'autres responsables de crimes, notamment soupçonnés de viol ou d'amputation? D'où la question sûrement d'Aïdara hein, qui se demande si ce procès peut ouvrir la voie à d'autres procès.
Oui, bien sûr. Cela peut ouvrir la voie à d'autres procès car l'enquête de la Cour pénale internationale sur la situation au Mali reste ouverte. La procureure l'a dit, l'a confirmé plusieurs fois. Elle a d'ailleurs indiqué que les enquêtes au Mali portent essentiellement sur les crimes de guerre qui auraient été commis depuis janvier 2012 dans les 3 régions de Gao, Kidal et Tombouctou dans le nord du pays et sur des faits survenus à Bamako et Sévaré dans le sud. Il est donc possible et probable que de futurs procès portent sur d'autres types de crimes que la destruction du patrimoine et à l'encontre d'autres personnes que M. Al-Mahdi, et en particulier, comme vous l'avez dit, des crimes tels que les viols, les mariages forcés, autres violences sexuelles qui ont été caractéristiques de cette crise malienne. et ainsi que des actes de torture, de mutilation, les exécutions arbitraires. Tous ces crimes pourraient faire l'objet de futures procédures devant la CPI, et c'est ce que la Fédération internationale des droits de l'homme espère. Et en outre, cela n'empêche en rien que d'autres procès puissent également voir le jour devant les tribunaux maliens, qui gardent compétence première pour enquêter et poursuivre les auteurs de tels crimes.
En tout cas, Hamad Al-Faqi, lui, donc, sera fixé sur son sort le 27 septembre. Et mercredi, le procureur de la CPI a requis une peine allant de 9 à 11 ans de prison. Il a pris en compte les excuses et puis le fait que Al-Faqi ait reconnu sa responsabilité, sa culpabilité donc, dans la destruction des mausolées de Tombouctou. Merci Alice Banens de la FIDH d'avoir répondu aux questions d'Aïdara à Bamako. On va accueillir maintenant Saturnin qui nous appelle de Ouagadougou. Bonjour Saturnin.
Allô, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Saturnin, vous vous intéressez à la guerre en Syrie.
Exactement. Et la Turquie a annoncé vouloir nettoyer sa frontière avec le nord de la Syrie. Comment compte-t-elle s'y prendre pour maintenir sa présence? N'y a-t-il pas un conflit d'intérêt entre les Américains, les Turcs et les Kurdes? Et quelles conséquences cela peut-il y avoir sur l'évolution du conflit?
Alors, la ligne n'est pas très bonne avec Ouagadougou, Saturnin, mais je vais juste reprendre donc vos questions avec notre expert Didier Billon, directeur adjoint et docteur en sciences politiques à l'IRIS. Bonjour, monsieur Billon.
Bonjour.
Alors donc, Saturnin dit la Turquie a annoncé vouloir nettoyer sa frontière. Il fait allusion donc à cette première hein, depuis le début de la guerre en Syrie. La Turquie a mené une opération au sol. Elle a envoyé des chars, des avions de combat à Diyar Ablus mercredi, juste de l'autre côté de sa frontière hein, pour reprendre la ville des mains de Daesh. C'est un changement hein, d'attitude de la part d'Ankara dans ce conflit et vis-à-vis hein, du groupe État islamique.
Oui, c'est un tournant incontestable des positions de la Turquie dans son traitement du dossier syrien, puisque nous nous rappelons que depuis 2011, depuis les débuts, ou quasiment depuis les débuts de la crise syrienne, les autorités turques avaient une obsession, c'était de tout faire pour chasser le président Bachar al-Assad du pouvoir. Cette politique, cette obsession du président de la République de Turquie avait eu de graves conséquences parce que on suppose que pendant plusieurs années, il y a eu des formes de complaisance à l'égard de l'État islamique, notamment par des livraisons d'armes ou par le libre passage d'un certain nombre de combattants djihadistes à la frontière turco-syrienne. Je constate pour ma part que depuis maintenant un an et demi, la Turquie a évolué parce que l'État islamique n'est contrôlable par personne. Et parce que des attentats ont commencé à se développer et à se multiplier en Turquie. Le dernier en date a eu lieu le week-end dernier dans la ville de Gaziantep contre un mariage de Kurdes avec 54 morts, dont de nombreux enfants. Et je pense que du point de vue de la Turquie, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et cela nous permet de comprendre pourquoi, mercredi matin, une opération militaire, c'est la première depuis le début du conflit syrien, a été initiée par la Turquie pour reprendre la ville de Diyar Ablus qui était tenue par l'État islamique. Donc c'est quelque chose de très important, mais, et c'est là où cela devient un peu plus compliqué, et c'est en ce sens aussi qu'il faut comprendre la déclaration du Premier ministre que votre auditeur mentionnait sur sa volonté de nettoyer la frontière, c'est que derrière l'État islamique, il y a un autre ennemi, ou considéré comme tel par les autorités turques, c'est-à-dire les groupes kurdes. Les groupes kurdes sont en train d'avancer considérablement et de reprendre un certain nombre de localités à l'État islamique. Mais ces groupes kurdes de Syrie sont en réalité soutenus par des Kurdes de Turquie, considérés comme terroristes par les autorités turques. Donc les choses sont un peu compliquées. Mais l'opération militaire de mercredi matin, qui s'est soldée d'ailleurs par une victoire assez rapide contre l'État islamique, a aussi pour but de stopper l'avancée des troupes, des milices kurdes de Syrie et les empêcher de faire la jonction avec d'autres territoires que ces milices kurdes contiennent.
On en vient donc à la deuxième question, Didier Billon, de notre auditeur Saturnin. Hein, un conflit d'intérêts entre Washington, qui soutient les Kurdes, et la Turquie. La Turquie et Washington ont dû tout de même rapprocher leurs positions autour de la lutte de Daesh, maintenant que Ankara s'est vraiment montré dynamique et impliqué sur le terrain, en tout cas dans cette lutte.
Oui, absolument, mais je crois que les choses évoluent très vite. C'est que jusqu'alors, vous avez parfaitement raison, et notre auditeur a raison, les Kurdes syriens étaient soutenus par les États-Unis et que les Turcs les considéraient comme ennemis, comme je l'évoquais précédemment. Donc là, il y avait vraiment une grosse divergence entre Washington et Ankara, qui pourtant, normalement, sont alliés. Les choses sont maintenant derrière nous. Le vice-président américain Joe Biden était en Turquie mercredi dernier, le jour même de l'offensive militaire qu'on a évoquée, et Joe Biden, donc vice-président des États-Unis, a clairement soutenu l'opération mise en œuvre par la Turquie et des groupes de rebelles dits modérés syriens. Et M. Biden a entre autres signifié aux Kurdes, qu'il soutient pourtant, aux Kurdes de Syrie, qu'il ne devait pas aller trop loin, qu'il devait laisser Jarabulus. Donc on peut constater une sorte de retour du balancier et que désormais sur ce dossier précis, en tout cas, car il y en a d'autres mais ce n'est pas le sujet, il y a une concomitance des points de vue turcs et états-uniens sur ce dossier syrien, sur la lutte contre l'État islamique et sur le rapport aux organisations kurdes de Syrie.
Merci Didier Billon, directeur adjoint et docteur en sciences politiques de l'IRIS, à l'IRIS, d'avoir été en ligne avec nous pour répondre aux questions de notre auditeur de Ouagadougou, Saturnin. Ouagadougou, il est 8h21, comme en temps universel. À la suite de vos questions sur l'actualité dans Appel sur l'actualité, la suivante nous est posée par Melchior, qui nous appelle de Brazzaville au Congo. Bonjour Melchior.
Bonjour Madame Casadebé.
Vous vous intéressez au Brésil, vous, Melchior?
Oui, je m'intéresse au Brésil, précisément à la situation de la présidente qui fait face à un procès en destitution. Donc, allô?
On écoute vos questions, Melchior.
Oui, je voulais savoir. Bon, hier, on a assisté au dernier acte de son procès en destitution. Je voulais savoir que va-t-il se passer, c'est-à-dire, si elle est reconnue innocente, est-ce qu'il y aura des élections anticipées ou bien elle va récupérer son poste? Et ensuite, la fin du procès, est-ce que ça veut aussi dire la fin des problèmes politiques au Brésil ou bien on peut craindre de voir la situation s'aggraver?
Melchior, c'est Silvano Mendes du service en brésilien de RFI qui va vous répondre. Il est en studio avec nous. Bonjour Silvano.
Bonjour Marie, bonjour Melchior.
Alors, comment ça va se passer si Dilma Rousseff est finalement reconnue innocente? Qu'est-ce qui va lui arriver?
Eh bien, dans le cas où elle serait déclarée innocente, Dilma Rousseff réintègre immédiatement ses fonctions jusqu'à la fin de son second et dernier mandat, à savoir jusqu'à la fin 2018. En revanche, même si elle reprend ses fonctions, la présidente brésilienne a déjà dit qu'elle voulait organiser un plébiscite afin de convoquer ensuite des élections anticipées. Il faut rappeler les auditeurs que Dilma a été réélue l'année dernière avec une petite marge. Et cette possible élection anticipée sera une façon pour la chef d'État, qui est jugée par les parlementaires et non par le peuple, de prouver sa légitimité auprès de la population.
Mais alors, il y a peu de chances que Dilma Rousseff puisse rester au pouvoir, c'est ça?
Très peu de chances. Ce scénario d'un retour de Dilma semble très compromis. Selon les comptages effectués par la presse brésilienne, plus de 58 des 81 sénateurs seraient favorables à la destitution de la présidente, c'est-à-dire un peu plus des deux tiers des votes nécessaires. Si ce compte est bon, Dilma Rousseff, qui est accusée, je vous rappelle, de maquillage des comptes publics et d'avoir signé des décrets engageant des dépenses imprévues sans l'accord du Parlement, perdra donc immédiatement son mandat. En plus, elle ne pourra donc plus être élue pendant 8 ans.
On va revenir au procès concrètement. Comment ça se passe? C'est plutôt rare qu'un président en fonction soit jugé par des parlementaires.
Oui, c'est rare, mais ce n'est pas la première fois. Il faut rappeler que le Brésil a déjà vécu un processus de destitution d'un président dans les années 90. Mais c'est la première fois où ce genre de procès arrive jusqu'à cette étape, jusqu'au jugement. La fois précédente, le président Fernando Collor, il a abandonné son poste avant même le jugement. Donc c'est aussi un peu inédit au Brésil. Le jugement a lieu au Sénat. Hier, 8 témoins ont commencé à être entendus. Mais au bout d'une journée de débats très houleux, seuls 2 des 8 témoins ont pu s'exprimer. Alors on imagine que cette phase peut durer tout le week-end. Ensuite, quand toutes les parties seront entendues, les sénateurs voteront. Mais la participation la plus attendue est bien sûr celle de la présidente Dilma. Elle compte aller elle-même lundi prochain assurer sa défense durant 30 minutes face à un hémicycle très hostile à sa personne. Nous avons d'ailleurs parlé avec son avocat. Il a confirmé qu'elle tient à affronter ceux qui l'accusent.
Alors on va se projeter un peu maintenant dans l'après-procès. Imaginons que Dilma Rousseff soit reconnue coupable. C'est donc la fin du procès. Est-ce que c'est la fin de la crise au Brésil?
Alors, c'est très difficile à dire, hein, parce qu'au cœur de tous ces débats, il y a certes la dispute politique avec une droite qui semble vivre mal la présence de la gauche au pouvoir, mais il y a surtout la question de la corruption endémique présente partout dans la classe politique brésilienne et qui est loin d'être réglée par la simple destitution de la présidente. Parce qu'il faut rappeler les auditeurs que le Parti des travailleurs, celui de la présidente Dilma Rousseff et de l'ex-président Lula, n'est pas le seul accusé d'être impliqué dans les affaires de corruption. Celui de vice-président et actuel président par intérim Michel Temer est également visé. Donc cela risque de laisser la vie politique du pays très instable, sachant que des élections municipales sont prévues au mois d'octobre.
Silvano Mendes, vos réponses aux questions de Melchior qui nous appelait de Brazzaville sont à retrouver en vidéo sur la page Facebook de l'émission Appel sur l'actualité. Une dernière question, on parle de sport avec Félix à Conakry en Guinée. Bonjour Félix.
Bonjour Alexis, bonjour Marie Casabébé.
Bienvenue Félix, on vous écoute.
Oui, au fait, aucun paralympique russe ne participera aux Jeux de Rio. Et du coup, le ministre russe des Sports a jugé cette décision plus politique que juridique. Qu'attendons-nous directement par là des propos du ministre russe? Comment est-ce que les paralympiques pourraient être concernés par le dopage? Et pourquoi cette fois-ci, le comité olympique a été si intransigeant?
Pierre Chaperon nous a rejoint en studio du service des sports de RFI. Bonjour Pierre.
Bonjour Marie, bonjour Félix.
Alors il y aura effectivement aucun sportif russe paralympique à Rio entre les 7 et 18 septembre. Donc le tribunal arbitral du sport l'a confirmé après donc la décision du comité paralympique d'exclure tous les sportifs russes. Alors le ministre des sports a effectivement qualifié ces sentences de politique. Pourquoi il aurait utilisé ces mots?
En fait, c'est un axe de défense comme un autre pour la Russie depuis le... C'est l'axe de défense depuis le début, hein, depuis que les athlètes valides ont été exclus par les différentes fédérations internationales des derniers Jeux Olympiques de Rio qui sont terminés dimanche dernier. Alors pourquoi? Eh bien, on doit se reporter à l'origine du rapport McLaren, du nom de l'avocat et président de la commission indépendante de l'AMA, qui a révélé ce système de dopage d'État en Russie. Le McLaren en question est originaire du Canada et pour la Russie, il voit la main des États-Unis derrière. Donc forcément pour eux, c'est politique. On veut détruire la force des États-Unis, de la Russie. Et tout l'état-major s'y est mis, de Dmitri Medvedev jusqu'à Vladimir Poutine.
Alors on en revient donc à l'exclusion maintenant des sportifs russes. Sur quoi ils se reposent? La question de notre auditeur, c'était dans quelle mesure ils sont concernés par le scandale du dopage?
En fait, on se rapporte aux Jeux Olympiques de Sochi en 2014, les Jeux Olympiques d'hiver. Il y a 27 cas de substitution de tests qui ont été mis en exergue dans le fameux rapport McLaren. La Russie qui avait d'ailleurs terminé première nation au tableau des médailles avec 30 médailles d'or, 28 en argent, 22 en bronze. Au JO de Londres d'été pour les valides, pour les non-valides, 46 sportifs russes sont identifiés avec des produits dopants. Et je répète, c'est pour les valides.
Hein. Oui. La dernière question de notre auditeur sur la sévérité du comité paralympique. Effectivement, il a été beaucoup plus radical que le comité international olympique qui lui avait laissé la décision aux fédérations. Ça a été assez radical.
Oui, en fait, le comité olympique et le comité paralympique sont deux entités totalement différentes, totalement indépendantes l'une de l'autre. Et en fait, ça vient peut-être de la manière dont elles ont de gérer les autres fédérations. Disons que le comité international olympique est une sorte de soleil auquel les planètes, c'est-à-dire les fédérations internationales, tournent de manière totalement indépendante, tandis que le comité paralympique, lui, est plus de pouvoir sur les fédérations paralympiques d'athlétisme, etc., de judo, de football, etc.
Donc une organisation
un peu différente
qui explique donc cette décision. Il n'y aura pas de sportifs russes.
C'est tolérance zéro du côté des paralympiques.
Merci Pierre Chaperon pour vos réponses aux questions de Félix. Restez avec nous. Dans moins d'une minute, on fait le point sur l'actualité africaine. Et puis on se retrouve pour la libre antenne. C'est vous qui choisissez vos sujets comme tous les vendredis.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.